Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale dans le bassin minier et au-delà. Une émission enregistrée dans nos studios à Lens, diffusée en direct sur notre site microrebelle.fr, mais aussi rediffusée chez nos amis de PFM à Arras sur le 99.9. Merci à eux. Si vous voulez participer à cet hebdo, enregistré le vendredi à 18h, n'hésitez pas à franchir la porte de nos studios. Vous pouvez aussi nous envoyer des infos et des idées de reportages ou d'émissions sur notre boîte mail contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez ces contacts et autres infos pratiques sur notre site. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine un agenda social et culturel dans le bassin minier et en région. C'est une revue d'actualité et de presse, des reportages, des interviews, des chroniques et de la musique. Aujourd'hui, on parlera précarité étudiante avec un reportage réalisé à La Ferté's d'Avion et de la commune, puisque c'est cette semaine le 150e anniversaire de l'insurrection communaliste à Paris. Mais pour l'instant, c'est notre agenda. Samedi 20. En région, il y aura deux rassemblements en soutien au personnel de la culture. Les personnels de la culture qui sont en danger suite à la fermeture des lieux culturels en France. Le département du Pas-de-Calais connaît deux lieux de mobilisation ce samedi 20 mars. À Arras, rassemblement prévu à 11h devant le Beffroi, puis à 14h devant le théâtre. Et à Calais, rendez-vous à 14h devant le théâtre. Pour information, un rassemblement similaire aura lieu à Abbeville à 11h devant la mairie. Samedi 20 mars également à 14h à Roubaix au métro Euro Téléport. Nous n'acceptons plus la misère qu'on nous impose. Un événement à l'initiative de l'Union départementale CGT du Nord. Nous n'acceptons plus la misère qu'on nous impose. Nous voulons du travail pour une vie digne. C'est donc cet appel à manifester samedi à 14h à Roubaix. Rendez-vous métro Euro Téléport. Et enfin, concernant les mobilisations, le Front contre l'islamophobie et l'égalité des droits pour toutes et tous Nord, avec pour premier signataire l'Association marocaine des droits humains, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, l'Association rencontre et dialogue, l'Association identité plurielle, le collectif Afrique, l'Association culturez-vous, le comité des sans-papiers 59, appelle à un rassemblement ce dimanche 21 mars à Lille contre la loi séparatisme, officiellement appelée loi confortant les principes républicains. Le rendez-vous est donné à 11h au métro Oisem à Lille. On va maintenant passer le micro à Aurélie pour sa chronique étudiante.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université de Lille, et en particulier pour ceux qui sont en histoire comme moi. Force est de constater que le président de l'Université ne fera plus la même erreur de fois. Les partiels de mai se feront à distance. Cette décision est assez surprenante étant donné que pour les partiels de janvier, la décision a été prise à la dernière minute. D'ailleurs, l'administration plaidait dur comme fer à la nécessité de partiels en présentiel, notamment pour ne pas dévaluer le diplôme. Or, deux mois après ces derniers partiels, il semblerait que l'administration ait changé d'avis. Au-delà du fait que nous sommes encore en crise sanitaire, nous l'étions déjà en début janvier, qui plus est au moment de la deuxième vague. Nous pouvons nous demander si cette annonce ne cache pas là encore des mesures. Qui sait, peut-être qu'encore une fois, à deux semaines des partiels, on nous dira à nous étudiants que les mesures permettent des partiels en présentiel.
Aujourd'hui, pas de revue de presse. On entame une série de chroniques sur la commune. Jusque fin mai, nous vous proposons une thématique différente sur cet événement de l'histoire sociale et politique, donc concernant la commune, la place des femmes, l'éducation, les aspects économiques, la vie démocratique, les communes hors de Paris, la postérité de la commune, etc. Avec une préoccupation, établir des passerelles entre la commune il y a 150 ans et notre réalité aujourd'hui, la réalité de nos luttes. Pour ce premier opus, nous nous intéresserons à un article de la revue Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire concernant les discours, les écrits de celles et ceux qui habituellement avaient la parole à cette époque, de par leur statut d'écrivain ou d'intellectuel. Vous le constaterez, c'est assez édifiant. Et tout aussi édifiant est le parallèle avec nos médias quand il s'agit de commenter les mouvements sociaux tels celui des Gilets jaunes. Cette semaine, au sujet de la Commune, c'est Lucien et Nadine au micro.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle pour cette nouvelle chronique « Vive la Commune ». Ce premier volet est enregistré le jeudi 18 mars 2021, soit 150 ans après le début de la Commune de Paris. La Commune de Paris a duré 72 jours, du 18 mars, début de l'insurrection avec le retour des canons à la butte Montmartre, jusqu'au 28 mai, fin de la semaine sanglante, durant laquelle des milliers de communards et communardes sont exécutés, sans jugement, par les troupes de Versailles. Ainsi, cette chronique « Vive la Commune » se poursuivra chaque semaine, jusque fin mai, et abordera différentes thématiques autour de la Commune de Paris. Par exemple, la place des femmes, l'éducation, les aspects économiques, les communes en dehors de Paris, la postérité de la Commune, etc. Et puis nous nous efforcerons chaque semaine d'établir des passerelles entre la Commune, il y a 150 ans, et notre réalité d'aujourd'hui, la réalité de nos luttes. Ces dernières années, parallèlement à l'affaiblissement du mouvement social, le souvenir, la connaissance de la Commune de Paris ont décliné. Ceci étant, à diverses occasions, la Commune continue à être invoquée. Par exemple, lors de Nuit debout en 2016, ou encore dans les ZAD, les zones à défendre. Durant le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs affichages, sur les murs ou sur des pancartes, se sont référés à la Commune. Et puis, à l'étranger, le soulèvement au Rojava ou au Chiapas s'appuyait sur l'expérience de la Commune de Paris. Nos chroniques « Vive la Commune » sur Micro Rebelle, à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, s'inscrivent donc dans une volonté de faire connaître ce qu'a été la Commune de Paris et en quoi elle nous permet de réfléchir aux luttes que nous menons aujourd'hui. Plusieurs magazines se sont emparés de cette date anniversaire des 150 ans pour nous proposer des éditions spéciales consacrées à la Commune de Paris. On peut citer Politis, Alternative Libertaire ou encore Les Utopiques. C'est justement à cette revue, Les Utopiques, que nous nous intéressons aujourd'hui. Les Utopiques, c'est, je cite, « un cahier de réflexion de l'Union syndicale solidaire ». Le numéro de ce printemps 2021, sur 300 pages, est consacré, je cite toujours, à la Commune de Paris, mémoires et horizons. Il est composé de nombreux articles qui abordent chacun un aspect de la Commune de Paris. Et pour cette première chronique, sur Micro Rebelle, nous nous sommes intéressés à un article signé Gérard Gourguechon à propos des discours, des écrits, de celles et ceux qui habituellement avaient la parole à cette époque de par leur statut d'écrivain ou d'intellectuel. C'est assez édifiant. À l'époque, pas de radio, ni d'écran, ni de réseaux sociaux. C'est donc prioritairement par l'écrit que se véhiculaient les idées. Et c'est donc par l'écrit que, je cite Gérard Gourguechon, les communards et communardes ont été combattus et massacrés par celles et ceux qui contribuent à faire l'opinion. Extrait. Le soulèvement de la Commune de Paris représente pour tous les écrivains ce qu'ils détestent le plus, la canaille, la populace, les voyous. Mais presque tous les écrivains refusent une explication politique ou sociale de l'événement. Ce n'est donc ni une lutte politique, ni une révolution sociale. C'est l'œuvre d'un petit groupe de brigands, de barbares, ayant préparé leur coup depuis longtemps, qui ont profité de la surexcitation de la population parisienne, provoquée par le siège et la défaite, pour s'emparer de la ville et la livrer à l'anarchie. Par exemple, Théophile Gautier, célébré de son vivant pour ses poèmes, ses romans, ses contes et ses nouvelles, et toujours à la recherche du beau, comme il aimait à s'afficher, n'était pas une grande âme pour autant. Il écrit par exemple
« Il y a sous toutes les grandes villes des fosses aux lions, des cavernes fermées d'épais barreaux où l'on parque les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes venimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser, ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse. Un jour, les animaux féroces se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 1793 et les gorilles de la Commune. »
C'était donc Théophile Gautier. Autre exemple, autre écrivain, Maxime Ducamp, qui écarte lui aussi les causes politiques pour expliquer la Commune. Il s'agit, selon lui, je cite, « un accès d'envie furieuse et d'épilepsie sociale ». Ou encore
« plus tard, lorsqu'on verra dans son ensemble toute cette commune, on reconnaîtra que la politique n'y fut pour rien. Les uns et les autres ont obéi aux impulsions de leur perversité. Mais la question politique était le dernier de leurs soucis. »
L'article de la revue Les Utopiques précise d'ailleurs « l'histoire de la commune de Maxime Ducamp lui a valu d'être élu à l'Académie française en 1880. » Autre exemple, Georges Sand, qui était pourtant socialiste et républicaine en 1848 et qui va cependant condamner la commune, traitant les communards de partie d'exaltés, de règne des plus furieux. Elle écrit par exemple en avril 1871, soit au cœur du déroulement de l'insurrection.
La commune est le résultat d'un excès de civilisation matérielle jetant son écume à la surface un jour où la chaudière manquait de surveillants. La démocratie n'est ni plus haut ni plus bas après cette crise de vomissement. Ce sont les saturnales de la folie.
Et ainsi, Georges Sand s'affichera en soutien à Adolphe Thiers, le bourreau de la commune. Pour tous ces écrivains, il s'agit de démontrer que l'événement ne découle pas de causes objectives et qu'il existe des éléments externes qui viennent tout expliquer. Pour ce faire, les acteurs et actrices de la commune vont être copieusement dénigrés et niés, les dirigeants, la populace, les femmes, les étrangers. C'est ainsi que l'écrivain Jean Richepin fait le portrait de Jules Vallès.
Eh bien, ces chefs ambitieux ou convaincus, charlatans ou prophètes, ont presque tous un point commun, c'est qu'ils étaient déclassés. Ce fut un soulèvement des déclassés et un gouvernement de fruits secs.
Alors on peut signaler que cet écrivain, Jean Richepin, sera lui aussi élu à l'Académie française. Alphonse Daudet, de son côté, fait lui aussi le portrait de Jules Vallès.
On devine le rire amer, les yeux pleins de bile de l'homme qui a eu une enfance malheureuse et qui en veut à l'humanité parce que, tout petit, il a porté des habits ridicules taillés dans les redingotes de son père.
Autre acteur de la commune, Gustave Courbet, le peintre. Alors, qu'en pense le comte de Lille ?
L'infect barbouilleur Courbet mériterait d'être fusillé.
Alors le comte de Lille, lui aussi, sera reçu à l'Académie française. Citons encore la comtesse de Ségur.
Ils ont bu tant de vin et d'eau de vie pendant leur règne de bandits que la moindre blessure devient gangréneuse.
Alors, par ailleurs, les communardes, ainsi que les étrangers, sont particulièrement l'objet d'attaques virulentes, avec toujours le même refus de motivation politique ou sociale. Il s'agit d'êtres perverses, donc on parle des femmes, recherchant la satisfaction de leurs appétits sexuels. Leur but est le communisme sexuel, le règne de la licence et de l'obscénité. La femme, être faible et dépendant, cherche aussi à prendre sa revanche sur l'homme en le dépassant dans le mal. La communarde est héroïque parce qu'elle est fanatique, farouche, excitée par la vue du sang et de la mort. Concernant les étrangers, on peut citer Taine, qui voit des étrangers partout. Environ 100 000 insurgés aujourd'hui, dont 50 000 étrangers. Taine entrera à l'Académie française en 1878. Alors pour tous ces écrivains, le seul remède ne pouvait être que la répression. Et c'est ainsi qu'ils saluent la semaine sanglante. Par exemple, Edmond de Goncourt, le 31 mai 1871, soit trois jours après les derniers massacres.
C'est bon. Il n'y a eu ni conciliation ni transaction. La solution a été brutale. Ça a été de la force pure. La solution a redonné confiance à l'armée qui a appris, dans le sang des communeux, qu'elle était encore capable de se battre. Enfin, la saignée a été une saignée à blanc. Et les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante d'une population, ajournent d'une conscription la nouvelle révolution. C'est 20 ans de repos que l'ancienne société a devant elle.
Alors, au-delà de Edmond de Goncourt, Gustave Flaubert, qui estime même que les verdicts de Versailles sont trop cléments.
Je trouve qu'on aurait dû condamner aux galères toute la commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou en simple forçat.
Enfin, on peut citer Georges Feydeau.
Ce que je veux, ce qu'il me faut, et tout de suite, c'est un bâton. Un fouet terrible, bien coupant, manié par une main ferme et qui déchire, sans relâche ni pitié, tous les gredins, tels que les socialistes de toutes les couleurs, de vouloir faire le bonheur de l'humanité.
Dans tout ce tableau, l'article de la revue Les Utopiques signale cependant qu'à l'époque, une poignée d'écrivains a sauvé l'honneur de la corporation, avec en particulier Victor Hugo, Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine et épisodiquement Arthur Rimbaud. Nous allons revenir sur cet article des Utopiques qui fait un parallèle avec notre époque juste après la pause musicale. On écoute « La commune est en lutte », un texte de Jean-Roger Caussimon, interprété par Dominique Grange.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance. Et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. On les cueillit en étant plus facile. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, des Versaillais infâmes approchent de Paris. Je t'ai dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui, tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. Sans verser, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Nous sommes toujours sur Micro Rebelle avec le premier opus de notre chronique Vive la commune. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la revue Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire à partir d'un article consacré aux écrivains de l'époque mobilisés contre la commune. L'auteur de l'article, Gérard Gourguechon, ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec notre époque concernant l'attitude des médias face aux mouvements sociaux. Avec un exemple significatif, le mouvement des Gilets jaunes. Extrait. En 2018-2019, une des fonctions des éditorialistes de renom aura été, tout comme les écrivains bien en cours en 1870, de nier toute idée de révolte sociale, pouvant se justifier par exemple par le développement énorme des inégalités. leur discours s'efforcera de décrédibiliser celles et ceux qui s'opposent à l'ordre établi. Yves Calvi, qui à l'époque officiait notamment sur Canal+ et sur C8, va s'emporter très rapidement dans sa séquence « L'info du vrai ». Il va nous parler de bordel et d'escroquerie intellectuelle. Le 2 février 2019, sur Canal+, il explique.
Car le vrai visage du mouvement des Gilets jaunes est clairement apparu ce week-end en trois étapes. La haine du juif, en menaçant l'académicien Alain Finkielkraut, la haine des femmes, en agressant Ingrid Levasseur, et la haine du flic, dernier rempart de la démocratie. Tout est dit, et ceux qui voudront faire la différence entre les bons et les méchants sont désormais tous complices.
Ainsi, termine Gérard Gougochon, tout est dit par Yves Calvi. Les gilets jaunes sont tous des méchants, et ceux qui pensent le contraire sont leurs complices. Et la tonalité est la même avec Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles.
C'est la réalité. Casseurs, violents, anti-républicains, antisémites, homophobes, l'os de ce mouvement. Je précise, un mouvement de bof, poujadiste, factieux et rouge-brun, la totale quoi.
Autre exemple, avec Renaud Dely, journaliste habitué des plateaux de télévision et de radio. Par exemple avec ce tweet.
Et dire que pendant que cette vermine parade chaque samedi, il est encore des idiots utiles des gilets jaunes qui fantasment un prétendu régime policier.
Et enfin, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.
Le mouvement des gilets jaunes régresse. C'est un mouvement qui tourne en rond et qui ne produit plus de sens. Tout et n'importe quoi a été revendiqué. Et puis, on en est arrivé au référendum d'initiative citoyenne, ce qui est la promesse d'un désordre total, absolu et permanent dans la société. Sans oublier la violence, parce qu'encore samedi à Angers et à Avignon, il y a eu des violences qu'il faut condamner, à chaque fois parce qu'elles sont tout le temps inacceptables.
Voilà, nous nous arrêterons là, en concluant, comme Gérard Gourgochon et la revue Les Utopiques, toutes ces interventions à l'encontre des Gilets jaunes et des mouvements sociaux, en 2018-2019, m'ont rendu la commune encore plus respectable et plus émouvante. Allez, malgré les vents mauvais, c'est l'occasion de se fredonner la vieille chanson « La commune n'est pas morte ». Merci à toutes et à tous d'écouter Micro-Rebelle. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le deuxième opus de cette chronique « Vive la commune ». D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.
Web radio indépendante de Bassamini, Micro-Rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
C'est devenu une habitude, on relaie une communication du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois Douaisy. Collectif qui vient compléter notre agenda avec ce rappel, il y aura une manifestation contre le déploiement de la 5G en Belgique. Samedi 20 mars à 13h30 à Bruxelles, carrefour de l'Europe, devant l'entrée de la gare centrale. Aujourd'hui, le collectif ACAD s'intéresse aux caméras de surveillance. Quel est l'intérêt d'installer des caméras de vidéosurveillance ? C'est une réflexion du collectif de réflexion citoyenne composé d'habitantes et d'habitants de Marcillac en Gironde et du Vallon, soutenu par des associations, syndicats et collectifs. Des caméras pour filmer les poubelles. Les coins poubelles du village seraient un peu trop régulièrement confondus avec une déchetterie. Il apparaît à tout le monde que filmer des poubelles serait plutôt incongru. C'est pourtant ce que la mairie est en train de mettre en place. À chaque fois qu'un système de vidéosurveillance est installé dans une commune, peu importe la raison donnée initialement, l'on constate systématiquement que le nombre de caméras augmente d'année en année, de mandat en mandat. À chaque problème soulevé ultérieurement, il sera si tentant de mettre une caméra de plus. Des caméras pour filmer l'entrée de l'école maternelle. Ce sont des bris de verre et des détériorations du tableau d'affichage ou de la boîte aux lettres située dans l'entrée qui servent ici de prétexte. Encore une fois, cela semble dérisoire pour justifier de filmer enfants, parents et enseignants à chaque entrée et sortie de l'école. Alors la mairie avance la sécurité des enfants. Nous estimons pour notre part que les enfants sont très bien encadrés par l'équipe enseignante, qu'il n'y a aucun problème de sécurité à l'école et qu'habituer dès le plus jeune âge des enfants à associer la notion de sécurité à un outil de contrainte technologique et à s'y habituer visuellement n'est pas neutre. Dès 2005, un syndicat de l'éducation dénonçait ainsi le risque des caméras en milieu scolaire. Est-il sain, pour le futur citoyen, de lui faire croire qu'il sera mieux dans un environnement où l'électronique assure le contrôle social? Les caméras prétendent à un effet dissuasif immédiat, mais décrédibilisent le contrat éducatif en déresponsabilisant les humains au profit d'un ordre de plus en plus dépersonnalisé, fondé non pas sur la solidité de leurs liens, mais sur la puissance de moyens de coercition. Ainsi, pour la sécurité de nos enfants, nous voulons une école et un village sans caméra, afin de leur montrer qu'ils sont au sein d'une communauté envers laquelle ils peuvent avoir confiance. Une vidéosurveillance inefficace qui aggrave les tensions. Laurent Mucelli, directeur de recherche au CNRS, spécialisé sur la vidéosurveillance, explique qu'elle n'assure ni prévention ni dissuasion des actes de délinquance et elle n'a globalement aucun impact sur le niveau de délinquance enregistré. Et que systématiquement, on observe un phénomène de déplacement des problèmes que provoque l'implantation de caméras en liaison avec un problème précis. Même la Cour des comptes assure en octobre 2020 qu'aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéosurveillance et le niveau de l'indélinquance commise sur la voie publique ou encore les taux d'élucidation. Le journaliste Hubert Guyot explique qu'en criminalisant les incivilités plutôt qu'en les apaisant, la vidéosurveillance semble une politique sécuritaire qui se développe à la place d'une offre de sociabilité et de cohésion sociale, de loisirs et de vivre ensemble, d'une politique de prévention ou d'accompagnement des populations en difficulté qui serait peut-être plus utile pour développer un sentiment de sécurité et une meilleure sociabilité. Pour une réelle démocratie locale et participative, un vrai référendum est nécessaire. Nous questionnons la temporalité de ce projet et l'absence de mise en œuvre d'une réelle démocratie locale. Alors que toute vie démocratique est suspendue depuis une année, les rencontres impossibles ne serait-ce qu'au café, les habitants et habitantes ont eu droit à un simulacre de démocratie. En allant chercher les sacs poubelles à la salle des fêtes, les habitants et habitantes étaient tout bonnement soumis à un interrogatoire par les élus assis devant eux. Êtes-vous pour ou contre les caméras ? Était la sommation à laquelle devaient répondre les citoyens et citoyennes, auprès de qui aucun débat ni aucune réelle présentation n'avait été faite. Pour un village vivant, solidaire, sans caméra. Il y a d'autres perspectives pour Marcillac qu'un village vidéo surveillé. Des bris de verre ou un dépôt de déchets, ici ou là, ne sauraient justifier l'installation d'un tel dispositif de surveillance. Nous sommes un village de 1700 habitants et habitantes, où les problèmes mineurs rencontrés méritent mieux que cette solution technologique. Citoyens et citoyennes, adolescentes, jeunes et adultes, associations, parents d'élèves, agents communaux et élus, doivent pouvoir remédier ensemble aux soucis de la vie quotidienne, dans le cadre d'une démocratie locale. Ce village mérite mieux que des caméras, où chaque habitant devient présumé coupable. Les 18 000 euros d'argent public que vont coûter ce projet ne seraient-ils pas plus utiles ailleurs, dans l'aide aux associations, comme la Banque Alimentaire de Marcillac par exemple, qui ont beaucoup souffert depuis une année, ou afin de rémunérer un animateur pour les adolescents? Alors que la Banque Alimentaire n'a jamais aidé autant de monde, que l'année fut difficile d'un point de vue des relations sociales, n'y avait-il pas plus humain à faire pour recréer du lien social que de surveiller l'école ou des locaux à poubelles? Pour toutes ces raisons, nous pensons que l'abandon du projet de vidéosurveillance serait bien raisonnable, et si les élus actuels persistent, nous pensons alors qu'il est nécessaire qu'une consultation citoyenne ait lieu. Il faut aussi savoir que la section de Rodez de la Ligue des droits de l'homme dénonce un projet inadapté et préoccupant. Voilà, pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez lire l'article complet sur le site du collectif ACAD en date du 18 mars. C'était un communiqué de ce collectif, anti-compteur communicant Artois Douaisy. Vous pouvez avoir d'autres informations sur leur site collectif-acad avec 2c.fr. Vous écoutez toujours Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale dans le bassin minier et au-delà. Et maintenant, précarité économique, difficulté pour suivre des cours à distance, obstacle à la réalisation de stages, détresse psychologique, les conditions de vie des étudiantes et étudiants se sont dégradées avec les confinements successifs. Pour creuser ce sujet, nous avons tendu nos micros à l'Affertès d'Avion.
Difficultés financières, problèmes d'accès à la nourriture, troubles psychologiques, mais aussi inconvénients de la formation en ligne ou freins à la réalisation de stages, le confinement a exacerbé les situations de précarité étudiante et mis en danger la réussite de toute une génération. À l'Affertès, association pour la formation, l'expérimentation et la recherche en travail éducatif et social, deux étudiantes et étudiants, Alex Pontini et Marie Zimura, ont mené une enquête statistique pour mesurer l'impact du confinement sur la vie étudiante. Et les résultats sont inquiétants. Entre autres, 41,5% des répondantes et répondants déclarent avoir des difficultés pour payer la nourriture, 39% pour payer leur loyer. 80% affirment que le confinement a un impact négatif sur leur santé et leur morale. Cette précarité et ces difficultés au sein de la formation sociale devient paradoxale si l'on considère la contradiction qu'il y a à étudier le travail social à la maison, ou le paradoxe à former des étudiantes et étudiants précaires pour accompagner des personnes en situation de précarité. Le 9 mars, nous nous sommes rendus sur le site de l'Affertès à Avion. Nous y avons rencontré Clarisse, Valentine et Yacine, toutes trois en formation de travail social, Pierre Duguet, directeur de l'Affertès d'Avion, et Alex Pontini qui a co-réalisé cette enquête.
C'est une étude qui a été menée dans le cadre de la représentation au CA, au conseil d'administration de l'école, et au CVS, le conseil de vie sociale, sur le site d'Avion. Et donc, en fait, on a constaté que de plus en plus autour de nous, on entendait parler d'enjeux autour de la précarité étudiante, des difficultés qui étaient liées à la fois au logement, au numérique, avec les cours en distanciel, à la question de la nourriture, enfin, plein de questions qu'on entendait dans la presse, dans les médias. Et on avait envie de savoir si ça nous concernait aussi ou si on était un peu exempt de ce genre de questions. Et donc on a eu envie de constater par nous-mêmes de ce qui se passait. Sur la question de la précarité économique, effectivement, on a énormément de travailleurs sociaux en formation qui sont impactés. Il y a 52,8% des répondants qui déclarent avoir rencontré des difficultés économiques au début de l'année. Et en termes de nourriture, effectivement, dans les questions libres qu'on a laissées à la fin du questionnaire, on nous demande à plusieurs reprises l'organisation d'un marché solidaire ou de bourse pour pouvoir se nourrir. Donc c'est une question qui revient. Ce n'est pas la question qui revient le plus, mais elle revient effectivement pas mal.
À part cette question de l'accès tout simplement à la nourriture, qu'est-ce qui t'a semblé le plus marquant dans les statistiques que vous avez pu établir?
Alors nous, on a interrogé les travailleurs sociaux en formation sur cinq questions. La formation en ligne, la recherche de stage, la précarité, les informations qu'on arrive à récolter à propos des aides financières auxquelles on peut avoir droit, et les conséquences du confinement sur le moral et la santé. Donc ce qui nous a beaucoup alerté, c'est la question des recherches de stage. Beaucoup de travailleurs sociaux en formation qui ont des difficultés pour trouver des stages parce que les foyers, les structures du social sont assez renfermées en ce moment à cause des risques sanitaires. Et aussi les conséquences du confinement sur le moral et la santé, où là on a vu qu'il y avait une hausse très significative de l'isolement, des pensées noires, des étudiants et des étudiantes qui ne trouvaient plus la motivation, qui avaient plus de mal à se lever pour assister aux visios. Donc ouais, c'est plutôt sur la question de l'isolement qu'on a remarqué que c'était très difficile. Et aussi au niveau de la question de l'accès au numérique, où il y a à peu près la moitié des répondants de l'enquête qui déclarent avoir des difficultés pour pouvoir accéder au matériel et à la connexion Internet.
Clarisse Magnier, j'ai 25 ans. Je suis en monitrice éducatrice deuxième année à l'ESTS d'Avion. L'année dernière, on a eu beaucoup d'abandon à cause d'un manque d'argent, ce que je trouve assez intolérable d'arrêter ses études parce qu'on n'a pas d'argent. Après, personnellement, ça m'a touchée aussi parce que j'ai travaillé pendant plus de 2 ans avant de trouver cette formation. Et je me suis retrouvée à plus vraiment travailler parce que j'avais plus le temps. Enfin, il y avait les cours, il y avait les stages, les bourses qui ne sont pas énormes. Il n'y a pas vraiment d'aide à côté. Il y avait un manque d'informations aussi. L'année dernière, on avait une secrétaire qui n'était pas au top. Donc elle m'a dit que je ne pouvais pas cumuler Pôle emploi plus les bourses. Donc, je me suis retrouvée avec 200 euros pour vivre. Bon, je vivais chez mon père, mais bon, il m'aidait pas, je paye mes factures tout seul, je me débrouille tout seul, je mange toute seule. Donc j'étais passée à un repas par jour. Et avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses, parce que cet été, on n'a pas pu travailler, on s'est renfermé sur nous-mêmes.
Comment la situation a pu s'aggraver, justement, avec le Covid et le confinement?
Au début, on pouvait trouver déjà les jobs étudiants. Les stages aussi, déjà trouver un stage rémunéré, c'est très dur. Donc là, c'était quasi impossible avec le Covid, parce que du coup, la bonne excuse maintenant, c'était on ne peut pas prendre de stagiaire parce qu'il y a le Covid. Moi, je me suis retrouvée à ne pas trouver de job d'été parce qu'ils ne prenaient pas. J'ai fait quand même un mois à nettoyer des camions pour désinfecter pour le Covid. J'ai trouvé que ça et pourtant j'ai cherché. Bon, après, j'ai fait tout. Hein. J'ai été auxiliaire de vie, j'ai travaillé à l'usine. J'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de tout ça, quoi. Puis le fait qu'on ne se voyait plus entre nous, on était quand même tout seul chez nous. Il y a une mauvaise organisation au niveau des cours aussi. On nous a lâché des copier-coller en fait, de cours en nous disant « vous rendez ça » et c'est tout. On n'avait plus de visio, on n'avait plus rien, il n'y avait plus de lien avec la formation. On est arrivé en septembre, j'ai l'impression de refaire ma rentrée, de recommencer au début en fait. Et ça a été compliqué de se remobiliser quand même, de se remettre dedans.
Et aujourd'hui, concernant la précarité, c'est une situation qui perdure pour toi ou que tu as pu résoudre en partie ou totalement?
Non, c'est pire que l'année dernière parce que l'année dernière, j'avais 297€ de bourse. Mes ressources n'ont pas changé, rien n'a changé. Et maintenant, j'ai plus que 103€ de bourse tous les mois. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'était compliqué en début d'année. Donc, j'ai emménagé avec mon copain qui, lui, travaille. Donc, c'est lui qui paye tout. Et moi, je m'accroche à lui, entre guillemets. Bon, après, j'essaye de m'en sortir. Je vais à droite à gauche, je prends des sous dans mes comptes, dans mes livrets, je revends des trucs sur Vinted. J'ai trouvé un contrat de travail avec mon stage où j'ai fait bonne impression, donc il me garde. Je travaille quelques jours par semaine, bon, c'est déjà ça en plus, quoi.
Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans et je suis en formation de moniteur éducateur en deuxième année. Et auparavant, je travaillais chez McDo. La première année, quand je suis rentrée en formation, j'avais les bourses. Donc j'avais 110€ de bourse et là cette année j'ai dû prendre mon logement, donc avec 110€ de bourse c'était pas possible, même en vivant chez mes parents c'était pas possible. Et ensuite j'ai dû retravailler 6 mois pour toucher la REF, l'allocation retour à l'emploi formation pour avoir accès à plus de revenus, quoi. Et parce que comme j'avais démissionné, j'avais pas le droit du tout aux aides de Pôle emploi. Du coup, j'ai retravaillé et j'ai pu obtenir la REF et plus mes 110€ de bourse. Mais bon, maintenant, j'ai mon logement, donc c'est toujours assez compliqué, quoi. Mais j'ai fait plusieurs fois appel à l'aide alimentaire sur avion grâce à des connaissances que j'ai pu avoir qui étaient là pour les étudiants, pour leur apporter des denrées alimentaires, quoi. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, je suis toute seule, donc il n'y a personne qui m'aide. Si je m'en sors pas, c'est soit je m'en sors, soit... rien du tout.
Est-ce que c'est une situation qui dépend ou pas du confinement?
On va dire qu'en fait, moi, avant le confinement, j'avais toujours... financièrement, c'était un peu galère. Après, pendant le confinement, j'ai pu avoir des opportunités de remplacement dans des structures grâce à la formation que je suis en train de faire. Donc, le confinement, ça a été bénéfique pour trouver du travail, mais au niveau des bourses et de la précarité étudiante, ça n'a rien changé, quoi. Ça m'a plus enlevé des aides maintenant, vu que j'ai travaillé, que m'en donner, quoi. On pousse les gens à faire des études, c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde parce que financièrement, c'est compliqué. Moi, l'année dernière, j'ai vu beaucoup de mes camarades partir de la formation parce que justement, financièrement, c'était pas possible. Donc l'année dernière, c'est vrai pour ma part, j'ai fait des manifestations parce que c'est vrai que ça me tient à cœur. Parfois, moi, je suis en formation parce que j'ai un projet et parce que ça me tient à cœur, mais financièrement, des fois, on peut pas se le permettre parce que c'est trop compliqué. Alors, je trouve que l'aspect financier, ça impacte beaucoup sur les choix et sur notre avenir. Je trouve pas ça normal qu'on doive penser à l'argent avant de penser à notre avenir. Des fois, ça met des bâtons dans les roues et c'est pas bien parce que parfois, on fait un peu une croix sur nos rêves parce qu'il y a l'aspect financier, quoi. Je trouve ça un peu nul.
Je m'appelle Yacine, j'habite à Rouvroy et je suis en deuxième année de formation d'éducateur spécialisé à la Ferté d'Avion. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir le droit à des droits Pôle emploi qui me permettent de vivre, de payer le loyer, et j'ai un petit complément de bourse. Donc, jusqu'à novembre, pour l'instant, j'ai des ressources, clairement. Mais on peut voir en promo que certains sont clairement en galère. En dehors de ça, j'ai assisté aussi au départ de mon binôme de formation, on va dire, un camarade proche de formation. Clairement, comment expliquer ça, c'était la galère entre la formation, il travaillait un peu le soir, il était Uber Eats le soir, donc ses stages. Quand la charge de travail, la charge de travail demandée dans le cadre de la formation, elle est trop grande, et ben, il a clairement arrêté. Hein. Clairement, au début, il s'est démotivé, et après, voilà, il a trouvé un CDD, et il s'est dit qu'il allait faire un report de formation, mais là, il est installé dans un travail, et il faut qu'il vive, comme il me disait, il faut que je vive, donc il a clairement arrêté la formation. Nos stages se sont arrêtés, donc pour certains, la gratification du stage, elle s'est arrêtée aussi. Donc ça a été un peu plus compliqué pendant le confinement parce qu'il faut aussi vivre, il faut aussi continuer de vivre, il faut continuer de manger, il faut continuer de faire plein de choses. Certains aussi vivent des centres de loisirs, ils mettent un peu d'argent de côté grâce aux centres de loisirs, grâce aux colonies, aux séjours de vacances. Là, il n'y avait plus rien et donc pour certains, ça a été compliqué. On a senti de toute façon toute la formation fragilisée aussi bien par la situation. Pour certains, le fait qu'ils étaient super isolés, hein, clairement, certains ont été super isolés pendant le confinement. Et toute l'entraide qu'il y avait, la petite solidarité entre étudiants, elle s'est perdue aussi. On ne se voyait plus, donc c'était beaucoup plus compliqué.
Un des points essentiels, c'est la santé mentale des étudiantes et étudiants. Donc, t'en as un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu veux développer un peu plus cette question-là. Et aussi, qu'est-ce qui peut être proposé en termes d'accompagnement, notamment ?
Alors oui, effectivement, au niveau de la santé mentale, on rencontre des difficultés. Elles ne sont pas forcément de l'ordre d'étudiants et d'étudiantes au bord du suicide ou qui ont des difficultés psychiatriques ou psychologiques extrêmement intenses. mais d'une situation qui ne s'arrête jamais et dont on ne voit pas le bout, qui a des conséquences sur des épisodes dépressifs ou de grosses baisses de motivation. Et de ce côté, on s'est un petit peu renseigné sur ce qu'on pourrait faire pour accompagner. L'idée étant de ne pas sortir du droit commun et d'aller voir du côté de ce qui est envisageable avec des structures qui existent déjà, d'aiguiller les étudiants dans des dispositifs auxquels ils pourraient avoir accès. Le problème, c'est que ces dispositifs, aujourd'hui, sont complètement engorgés. Donc, pour avoir un rendez-vous au BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire qui se situe à Lille, donc déjà, il faut y aller, parce qu'il n'y en a pas dans le Pas-de-Calais. Et donc, il y a la question du transport. Mais en plus de ça, il y a la question du temps d'attente. Donc, moi, j'ai appelé pour orienter quelqu'un. C'était 4 mois et demi d'attente. Donc, on m'a demandé de dire à la personne de faire une demande sur un site en ligne pour avoir une consultation psy en visio. Là, c'est pareil, c'est une liste d'attente qui attend pour déboucher sur la liste d'attente. Donc, c'est complètement pris d'assaut parce que forcément, les conséquences, elles sont pour un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes de tous les domaines. Et donc, le CROUS est dépassé, le secteur privé est dépassé. Les chèques santé qui ont été mis en place par le gouvernement, on n'a pas beaucoup plus d'informations et la communication n'est pas faite énormément. Il faut quand même passer par un médecin généraliste pour ensuite être aiguillé vers un psy qui sûrement sera aussi pris d'assaut. Donc c'est compliqué, on ne trouve pas vraiment les solutions pour répondre à la demande.
Moi déjà, je suis une grande stressée de base. J'ai été en études d'infirmière pendant un an. Et en fait, ça ne me plaisait pas, mais je me mettais dans le déni. De me dire, j'ai dit que je faisais ça, je vais faire ça, je vais aller jusqu'au bout. Et je me suis fait des crises d'angoisse incroyables où je ne bougeais plus de mon lit, tout ça. Et c'est la formation moniteur-éducateur qui m'avait sauvée. Et ça m'a remis dedans avec le Covid, parce que être tout seul chez soi, attendre, se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à faire mes dossiers? Est-ce que je comprends ce qu'on me dit par visio? Parce que s'il n'y a pas d'interaction, si j'ai une question, je fais comment? Je peux pas, on lève la main, mais pas forcément. Les visios, ça m'a... C'est pas top du tout. Ouais, l'isolement aussi, ouais. Il y a eu un moment, je me rappelle, j'ai appelé une de mes amies qui est en ES, et je lui dis, j'en peux plus. Elle me dit, t'en peux plus de quoi? Je dis, j'en peux plus, on est tout seul. Je dis, je vois plus personne. Je sais même plus ce que c'est un contact social. Je dis, il faut faire quelque chose, là. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, je sais pas, mais il faudrait qu'on fasse du présentiel. Et heureusement, il y a eu du présentiel juste le mois d'après, donc ça m'a fait du bien de revoir un peu du monde.
Pendant le confinement, c'est vrai qu'on l'a énormément ressenti. Là on retourne en formation et on est super content parce que C'est vrai que quand on est dans son appartement, on travaille, même trouver la motivation de travail, c'est super compliqué devant son ordinateur. Et je pense que déjà, le fait d'avoir été confiné, on a aussi perdu beaucoup de motivation, clairement. Parce que suivre les visios constamment, ça a été compliqué. On a des rapports différents à la scolarité, et celui-ci, par le visio, ça a été compliqué. Après, c'est vrai qu'au niveau... Ouais, c'est d'être seul tout constamment, et on travaille dans notre formation, on est énormément en groupe. Et notre formation, elle passe aussi par la coopération, par... si t'as un camarade a un petit souci, de compréhension d'un cours, s'il a pour monter un dossier, il a du mal, et ben on était là aussi pour se soutenir. Et là, par visio, c'était beaucoup plus compliqué. Mais moi, personnellement, ce qui m'a le plus manqué, c'est l'interaction des autres. Hein. De toute façon, on apprend de tout le monde, on apprend de ses pairs, on apprend des collègues de formation, on apprend des formateurs. Et sans ces temps de groupe, sans ces temps de formation physique, et ben en effet, on peut perdre de la motivation et peut-être abandonner la formation par rapport à ça, oui.
Mais effectivement, on a des gens qui nous confient que c'est de plus en plus difficile, qui se sentent décrochés, qui n'ont pas le moral, qui ne trouvent pas le sens à la formation vraiment, alors que les efforts pédagogiques et les efforts d'adaptabilité sont faits. Mais c'est que ça ne suffit pas parce que c'est aussi le fait de ne pas se voir, de ne pas avoir de dynamique de groupe, de dynamique collective qui fait que ouais, c'est difficile pour pas mal d'étudiants, notamment dans notre promo, qui ont... un sentiment de lassitude, je pense, par rapport à la situation.
D'après toi, de quelle manière, en fait, cette situation de précarité, elle impacte concrètement la possibilité de faire aboutir tes études et ta formation?
Parce que, je veux dire, chaque personne a des besoins et forcément, on a des coûts financiers, déjà pour s'alimenter, pour payer nos factures, machin, etc. Et en plus, quand tu as cet aspect financier, tu te dis est-ce que je vais y arriver ou pas? T'es pas dans une bonne optique pour réussir ce que tu es en train de faire, quoi. Je veux dire, si tu es dans les études ou dans une formation et que tu penses toujours merde, j'ai pas assez de thunes pour finir le mois, t'es pas dans quelque chose de bon pour réussir, quoi.
Ça bouche un peu ton avenir, quoi, cette situation-là?
Ouais, clairement, ouais. Moi, je voulais faire la passerelle. Je voulais continuer, mais 2 ans, c'est pas possible. Hein. Moi, je me dis que là, finalement, c'est une formation courte, donc je me dis j'accéderai plus vite au marché de l'emploi. Donc là, je me dis c'est bien parce que je vais avoir un salaire tous les mois et je vais être tranquille, entre guillemets, je vais plus galérer. Mais du coup, ça m'empêche un peu, ouais, de voir au-delà de là maintenant ce que je fais, quoi. Je me dis que j'aurais pu continuer, mais finalement, c'est un peu chaud, quoi. Donc financièrement... c'est pas trop possible, quoi.
Ouais, ça a été compliqué parce que je me suis dit, il faut que j'arrête. Je vais tout arrêter, je vais reprendre auxiliaire de vie, même si, en plus, auxiliaire de vie, j'ai gagné 600 euros par mois. J'ai jamais gagné un SMIC, quoi, pour tout ce qu'on fait. C'est un autre sujet. Et plus d'une fois, je me suis dit, je vais arrêter, je vais aller à l'usine, je vais gagner beaucoup plus et je serai tranquille, quoi. Parce qu'en plus, moi, on a qu'une semaine de cours par mois, donc le reste du temps, j'étais chez moi et j'attendais. Je l'appelais pour des stages, j'appelais pour des boulots. Non, il n'y a rien, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Ça a été compliqué, mais on recommence à revenir en présentiel, donc c'est un peu plus motivant déjà.
Est-ce que tu suis, les réponses apportées par le gouvernement sur la situation des étudiantes et étudiants?
Je suis. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les jeunes, c'est de leur faute si le Covid se propage. Les jeunes, c'est de leur faute si ça ne va pas dans leurs études. En fait, on nous charge, j'ai l'impression. Mais nous, on est juste là et on demande juste un peu plus d'aide, un peu plus d'attention. Je veux dire, il y a quelques fêtes sauvages, machin, mais on n'est pas tous dans le même panier, quoi. Il y en a qui veulent s'en sortir et il faut arrêter. Puis au niveau des aides, on n'est pas aidés. Je vois tout ce qui est CROUS, tout ça, qui ont eu quand même des aides. Nous, ça fait faire un an et demi de Covid, on a eu seulement des aides là en début d'année. On a eu une prime de 150 euros. J'ai l'impression qu'on a un peu les oubliés sur le côté, un peu tout le temps. D'ailleurs.
Ils vivent dans la société dans laquelle on est, hein, c'est-à-dire à la fois une société du précariat salarial et en même temps ils sont des étudiants qui nécessairement sont confrontés à des difficultés terribles, hein, soit sur le plan social, économique. Et effectivement, c'est des choses qu'on découvre de plus en plus. Alors, la crise Covid est venue complètement amplifier les choses. Et alors, il est certain que de se dire qu'on a des étudiants en formation au travail social qui eux-mêmes vivent cette précarité de manière importante, c'est plutôt paradoxal. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que c'est toutes les paradoxes de notre société. Hein. C'est à la fois demain que ces étudiants-là viennent en aide aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Et en même temps, cette vulnérabilité-là, ils la vivent. Alors c'est vrai que cette situation-là, que ce soit à la Ferthèse ou je pense dans d'autres centres de formation, elle est vraiment importante en termes de massification de la problématique chez les étudiants, et que il nous appartient nous aussi en qualité d'organisme de formation d'essayer de trouver des éléments de réponse. Je pense qu'on peut plus penser la formation uniquement comme un espace d'apprentissage professionnel, mais c'est aussi un lieu à mon avis où il faut considérer aussi la complexité des conditions de vie de nos apprenants.
Par rapport à la situation, comment toi, tu as pu prendre en compte les problématiques et quels ont été les dispositifs ou les réponses qui ont pu être apportées ?
Pour les premières demandes qui ont émergé, notamment depuis une petite année, là, ça n'a pas été facile pour eux, parce qu'on s'est rendu compte que être à la fois en formation de travailleur social et de demander de l'aide, pour eux, c'est vraiment quasi mission impossible, parce qu'ils se retrouvent dans un véritable paradoxe, à la fois être finalement en position d'aidant demain et en même temps solliciter de l'aide. Alors pour eux, pour certains, c'était vraiment très très difficile. Alors nous, ce qu'on a mobilisé, déjà premièrement, c'est tous les réseaux territoriaux. Sur le bassin minier, il y a beaucoup de choses. Sur Avion aussi, on a sollicité nos partenaires pour faire des colis alimentaires, pour déclencher des aides d'urgence, essayer de travailler aussi avec les services du CROUS, avec les associations du territoire. Nous-mêmes aussi, on a créé une association qui s'appelle les Amis de Mandela pour permettre aux étudiants de pouvoir étudier avec du matériel informatique correct. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que certains étudiants travaillaient, faisaient des mémoires sur des téléphones portables. Alors, on se rend compte de la difficulté d'avoir à produire un mémoire de 40 à 50 pages sur un téléphone portable, avec des conditions qui sont déplorables. Donc, nous, notre manière d'envisager l'accompagnement et l'aide aux étudiants, déjà, c'est d'essayer d'être... minimum à leur écoute, et d'être sensible aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Enfin, je pense que la formation professionnelle, ça dépasse très largement la sphère de l'apprentissage des codes professionnels. C'est aussi considérer le fait qu'on a des jeunes qui ont 20 ans, qui vivent en plus en pleine période de crise Covid. Il nous appartient à nous d'être sensibles à ça. Et en tout cas, pour le coup, nous, on essaye de répondre favorablement à leurs sollicitations et puis de pouvoir construire aussi avec eux des éléments de réponse, parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse non plus.
Globalement, est-ce que tu penses qu'il y a des réponses adéquates à la situation, aux problèmes et à la gravité de la situation dans laquelle sont les étudiantes et les étudiants ?
En tout cas, pour ce qui concerne les étudiants en formation travail social, que ce soit les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs, il y a déjà une grosse problématique, c'est la question de l'accès aux stages, parce que effectivement, tous les stages de plus de 8 semaines sont soumis aux logiques de gratification et bon nombre d'établissements qui souhaiteraient les accueillir en stage n'ont pas les fonds dédiés pour pouvoir gratifier les étudiants. La gratification, ce n'est pas des sommes énormes, c'est 3,90€ de l'heure. Mais pour le coup, beaucoup d'établissements refusent des stages de plus de 8 semaines aux étudiants parce qu'elles n'ont pas les dotations suffisantes pour pouvoir gratifier ces étudiants. Donc, ça, c'est une véritable problématique. Alors, en plus qu'ils ne trouvent pas de stage, ils doivent renoncer, pour certains, à des gratifications, c'est-à-dire commencer leur apprentissage dans le monde du travail à renoncer à un droit. Je trouve ça complètement aberrant, en plus pour des professionnels qui, demain, seront amenés à accompagner des personnes en difficulté dans l'accès aux droits fondamentaux. Donc, je pense que là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement le serpent qui se mord la queue. On a des contradictions, mais qui sont terribles. Alors, ça, c'est déjà, à mon avis, un élément de réponse. Je pense qu'aussi, la question des bourses, aussi l'accès aux bourses, le fait d'avoir une régularité des versements, des bourses, pour pouvoir suivre sa formation, c'est essentiel. Parce que parfois, la bourse est, délivrée le premier du mois, ensuite c'est le 25. Enfin, je veux dire, quand on a un loyer à payer, évidemment, il tombe à date fixe. Il faut qu'il y ait des régularités, notamment des bourses à destination des étudiants. Après aussi, que les services du CROUS puissent leur venir en aide. Mais je vois que sur les aides d'urgence, mais aussi les cellules d'accompagnement psychologique, évidemment, l'ensemble des services sont complètement saturés du fait de la massification des problématiques des étudiants. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a des réponses techniques aussi. Les CMP sur la question de l'accompagnement au niveau des cellules psychologiques explosent aussi de partout. Enfin, on voit très, très nettement les limites de l'ensemble des services publics qui, en cas de crise, se retrouvent submergés de demandes et n'arrivent plus à répondre finalement aux besoins essentiels, notamment de cette catégorie sociale que sont les étudiants, notamment en travail social.
Et en dehors de l'école, vis-à-vis de la situation globale des étudiantes et étudiants, parce que ça ne concerne pas que les personnes en formation ici à la Fertès, j'imagine que tu as des idées sur cette question-là.
Ouais, moi je suis assez alarmé par la manière dont on est considéré, les étudiants et les étudiantes. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ont l'impression d'être les grands oubliés de la situation, qui vivent dans des logements universitaires de 9 mètres carrés. Il y a eu beaucoup de suicides ces derniers temps, ou tentatives de suicide. Les files d'attente qu'on a tous et toutes vues à la télé, qui n'en finissent pas devant les centres d'aide alimentaire. Donc oui, ça c'est des choses qui sont absolument généralisées. Et c'est ça qui fait peur, c'est que, en fait, il y avait déjà de la précarité étudiante avant, mais elle touchait les gens qui étaient les gens précaires et c'est tout. Et donc ça dérangeait beaucoup moins. Et là, actuellement, de voir que, en fait, même les gens qui d'habitude sont dans une situation confortable ou moyenne, mais qui s'en sortent, là, ils sont vraiment touchés aussi. Et c'est une précarité qui est vraiment généralisée. Et donc, moi, je pense que la réponse du gouvernement, pour l'instant, elle n'est pas du tout au niveau de la situation. L'échec santé pour les consultations psy, c'est uniquement pour aller voir des psychologues et pas des psychiatres. Et c'est, je crois, l'équivalent d'une ou deux séances qui est prise en charge. Vu la situation actuelle, je pense que pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui avaient déjà des difficultés avant, ça ne suffira pas, en fait. Et on ne peut pas juste dire qu'on a fait quelque chose, parce qu'un suivi psy, ce n'est pas deux séances, ce n'est pas une séance pour dire « Ah ouais, c'est compliqué ». C'est un suivi. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle.
Confinement et précarité chez les étudiantes et étudiants en travail social, un reportage de Micro Rebelle avec Alex Pontini, co-réalisateur du diagnostic des besoins étudiants, Clarisse, Valentine et Yacine, et Pierre Duguay, directeur de La Fertès à Avion. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous la semaine prochaine ou entre-temps sur notre site Micro Rebelle. Merci à nos amis de PFM qui nous rediffusent. On se quitte en musique avec cette réinterprétation de La Semaine sanglante par un artiste local, Pierre Rodriguez. Ciao!
a-t-il donc toujours idée? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sorte brique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail?